Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les sept présidents de la Ve République sont au centre de deux ouvrages parus ces derniers temps. De quoi donner à Franck Ferrand du grain à moudre.
Exactement. Bonjour
Franck. Bonjour
Ombline, bonjour à tous. Marc Tronchot, qui a dirigé la rédaction de cette maison et que connaissent donc très bien les auditeurs d'Europe 1, nous propose un livre sur le rapport à Dieu de nos monarques républicains. Quant au député, ancien député Jean-Marie Cambacérès, il s'est penché sur leurs voyages officiels. Deux sujets magnifiques qui ont donné deux livres vraiment passionnants. Ça se dévore, je vous assure. On pourrait s'étonner qu'il n'ait pas été traité plus tôt, ces sujets-là. Les auteurs sont avec nous en ce début d'après-midi.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Jean-Philippe sur l'origine de l'expression « tenir la dragée haute ».
Eh bien, pourquoi pas. Pour le moment, nous avons donc rendez-vous avec De Gaulle, avec Pompidou, avec Giscard, etc.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Au nom du vieux pays, au nom de la France, je vous salue. Je vous salue de tout mon cœur. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Vive le Québec! Vive le Québec libre!
Aïe, 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 si je puis dire, il était 19h30 ce 24 juillet 1967 et devant 15 000 personnes littéralement chauffées à blanc, le général de Gaulle lançait ce pavé dans la mare internationale. Vive le Québec, jusque-là pourquoi pas. Et il ajoute vive le Québec libre. La foule en retour va acclamer de Gaulle, ce vive le Québec libre ne peut que rappeler évidemment dans la bouche de l'homme du 18 juin, le vive la France libre. Vous imaginez tous les supposés, tout ce que cela sous-entend, bien entendu. Le discours du général de Gaulle n'est que le point d'orgue, bien entendu, d'une visite qui a été tout à fait extraordinaire. Le général était parti le 15 juillet 1967 de Brest, à bord du croiseur de la marine nationale, le Colbert. Il devait se rendre au Canada, disait la dépêche officielle, en fait, précisément au Québec, à l'invitation du maire de Montréal et du premier ministre québécois. C'était pour l'occasion, c'était pour l'exposition universelle de Montréal, vous savez, où la France avait d'ailleurs érigé un somptueux pavillon. Enfin ça nous entraînerait sur un tout autre terrain. À l'exception d'un bref passage du général de Gaulle à Montréal au retour d'un voyage aux États-Unis 7 ans plus tôt, c'était sa première véritable visite, en tout cas sa première visite officielle. Nous allons voir tout à l'heure avec Jean-Marie Cambacérès les distinctions qu'il faut faire entre visite privée, visite officielle, visite d'État, il y a toute une gradation bien entendu. Première visite officielle d'un chef d'État français dans l'ancienne colonie. Au cours de ce séjour, le général de Gaulle avait prévu de se rendre à Ottawa, qui est la capitale fédérale canadienne. Alors bon, la traversée sur le Colbert a été difficile, il faut dire que la mer était pour le moins houleuse. Il faut lire ce que certains aides de camp du général ont pu écrire sur le sujet. Et le 23 juillet au matin, le Colbert jette l'ancre dans l'anse de Foulon, au pied de la citadelle de Québec. Ça fait des images assez extraordinaires, tout ça bien entendu. Et D'emblée, de Gaulle va pouvoir mesurer son incroyable popularité. Il prend des bains de foule, il prononce un premier discours dans la ville de Québec, et déjà, il insiste sur l'identité commune, entre parenthèses, jolie redondance, sur l'identité commune des Français et des Québécois. Le lendemain matin, donc, il emprunte le fameux chemin du roi pour aller de Québec à Montréal. Alors, il est à bord d'une limousine et tout le long, il est salué. Mais comme une sorte de libérateur, il faut bien le dire. Et on lit partout France libre, Québec libre, vive Canada français. Tout ça peut-être pour expliquer comment on en est venu à la fameuse phrase prononcée au balcon de l'hôtel de ville à 19h30. Alors, au micro Europe 1 de Maurice Bruzek, vous avez entendu ce que ça pouvait donner tout à l'heure. Évidemment, cette déclaration a eu des répercussions importantes. Le général a tourné court, hein, si je puis dire. La visite officielle a été écourté, la phrase n'a pas plu du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, et à titre exceptionnel, quand le général est rentré, alors je parle là de mémoire, mais Jean-Marie Cambacérès va nous dire dans un instant si je ne me trompe, quand il est rentré à Orly ce jour-là, il n'y a pas eu de salon d'honneur, etc. C'est, j'ai envie de dire, le président est passé par la petite porte et on est rentré très vite. Les Québécois, eux, n'ont jamais oublié ce discours. Et c'est vous dire, parce que très souvent on a tendance, et nous notamment les Parisiens qui pestons à chaque fois qu'un chef d'État est en visite dans la capitale, parce qu'évidemment ça crée des embouteillages impossibles, c'est pour les Parisiens. Je salue d'ailleurs la patience des Parisiens qui doivent recevoir je ne sais combien de chefs d'État tous les ans. Et c'est compliqué, objectivement, de vivre dans une capitale. Mais cet exemple, et c'est pour ça que j'ai commencé par là aujourd'hui, nous donne une idée de l'importance de ces voyages officiels. Le tout premier qui me revient à la mémoire, c'était en 1973. Je n'étais pas grand, hein, pour tout vous dire, j'avais 5 ans. On était le 11 septembre 1973 et le président Pompidou se rendait à Pékin. Donc l'avion du président français atterrit à Pékin à 15h, il est 8h à Paris. C'est très important, hein, cette visite d'un président de la République. C'est un peu comme si c'était la visite du monde libre, comme on disait à l'époque, hein, du camp occidental à l'empire du milieu, qui est surtout la République populaire, donc communiste de Chine. Un président Pompidou dont vous savez bien qu'il est par ailleurs très malade, il a le visage bouffi, il ne lui reste à cette époque-là que quelques mois à vivre. Et en face, il y a un Mao Tse-tung, qui lui-même est très affaibli. Le Premier ministre Zhou Enlai va se charger en fait de faire visiter un certain nombre de provinces au président français. Et le soir du 11 septembre, un dîner d'État est donné en l'honneur de Pompidou dans la grande salle du palais de l'Assemblée nationale populaire. Il y a environ 600 couverts, une centaine de tables rondes. Le président français arrive aux côtés de Mao. Ce sont des images que nous avons tous vues et revues, bien entendu. Il va faire un discours important. Ce discours, je vous propose de l'entendre dans un petit instant.
L'ambition de la France en tendant à la Chine, à travers les milliers de kilomètres qui les séparent, par-delà les différences de régime et de structure, en lui tendant la main de l'amitié, la France entend manifester sa conviction que notre planète n'est peuplée que par une seule et même humanité. Elle entend proclamer sa foi dans la possibilité pour cette humanité dispersée, divisée par l'histoire, la géographie, l'économie ou la culture, de se retrouver unie dans un même désir de paix, de travail et de bonheur. Elle entend apporter la preuve que les États ne sont pas seulement des monstres froids, qu'ils peuvent poursuivre autre chose que des intérêts égoïstes et immédiats. Oui, quand deux grands peuples, ayant la fierté de le dire, se rencontrent comme ceux de France et de Chine, ce ne peut être seulement de diplomatie ou de commerce qu'il s'agit. Il faut que cette rencontre soit aussi pour les autres peuples de cette terre un signe d'espoir.
Georges Pompidou parlant devant 700 personnes à ce grand dîner d'État pour la visite de septembre 1973. C'est intéressant de l'entendre comparer les deux grands peuples. Numériquement, en tout cas, on ne peut pas tellement comparer le peuple de Chine et celui de France. Le président français avait dans ce discours, et c'est son importance diplomatique, il avait demandé clairement qu'on mette fin à la guerre du Vietnam et il s'était prononcé tout à fait clairement en faveur de la neutralité du Cambodge. Ça, c'est pour la dimension diplomatique qui vient généralement un peu teinter, un peu pimenter les voyages officiels. L'essentiel est ailleurs, bien entendu. D'ailleurs, je parle de voyage officiel, là c'est une visite d'État en l'occurrence. Évidemment que l'essentiel est plutôt dans les symboles. Alors les symboles, ils sont multiples. Pour vous donner une idée, au cours du fameux dîner, on a joué du Rameau, on a joué du Debussy, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de rendre hommage à la personnalité invitée, bien entendu. Le président Pompidou a visité la Cité Interdite et dès qu'il sort de la Cité Interdite, il est reçu par Mao, comme si on voulait créer une idée symbolique de la continuité des siècles, donc, et presque d'une sorte de continuité impériale. Et puis, le soir, il y a un ballet auquel va assister le président en présence de Jiang Qing, vous savez, la terrible épouse de Mao. Et chose unique, parce qu'on ne l'a jamais vue d'un autre moment dans sa vie, elle portait ce jour-là une robe grise à mi-mollet, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dans la tenue Mao officielle, etc. Toujours pour rendre hommage à la mode française, etc. Vous voyez, de tout ce genre de petits symboles qui jouent un rôle très important. Et puis, il y a la politique, il y a le symbole, ce qui est peut-être le plus important. Et puis, au troisième plan, et peut-être au premier, c'est la question que je vais poser à mon invité dans un instant, il y a la question économique, bien entendu. Et il est évident que ces voyages ne sont pas neutres sur un plan économique. Le président se déplace avec une délégation, et cette délégation a généralement peu de temps, peu de jours, peu d'heures pour faire signer de gros contrats à la puissance invitante. C'est souvent comme ça que ça se passe. La dernière étape de Pompidou l'avait menée à Shanghai, toujours avec le Premier ministre, hein, Zhou Enlai, qui l'accompagnait partout. Tout ça sous une pluie battante. Il y avait quand même des milliers de personnes qui étaient là pour l'acclamer. Bah oui, il faut dire qu'on est dans la Chine populaire. Hein, donc les gens devaient être réquisitionnés et envoyés au bon endroit. Et on leur a sans doute demandé d'acclamer le président français le 17 septembre, à l'issue d'une semaine entière passée quand même en Chine. C'est pas une visite éclair. Pompidou va remonter à bord d'un DC-8 il fera une escale de 4 heures en Iran, grand allié de la France à l'époque. Oui, quand je vous dis que le symbole est partout, il est présent même dans les itinéraires qu'emprunte l'avion présidentiel. Alors, puisqu'on parle de symbole, très 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 important, le fameux voyage qu'a effectué le président Giscard d'Estaing en novembre 75. Donc là, vous voyez, on est 2 ans après la visite de Pompidou en Chine. Un voyage, je choisis hein, parmi tous les voyages qu'évoque Jean-Marie Cambacérès, il y en aurait tellement, voyage qu'il effectue en Espagne. C'est très très important car on est dans la fameuse transition. Vous savez, le général Franco vient de mourir après 36 années d'un pouvoir sans partage, en tout cas en façade. Et le 22 novembre, le successeur que Franco lui-même avait désigné, le prince Juan Carlos, devient le roi Juan Carlos Ier. Il prête serment devant les Cortes, qui est l'assemblée espagnole. Il a été intronisé officiellement, il y a eu un grand tédéum, etc. Et dans l'assistance se trouve, alors beaucoup d'ambassadeurs, de premiers ministres, etc. Et le président Giscard d'Estaing, seul chef d'État à avoir fait cette visite. C'est très important, c'est même un risque important pour l'Élysée à l'époque, puisque vous imaginez bien qu'on est en train d'introniser le successeur désigné de Franco. Et Giscard va faire le pari de la démocratie en Espagne, comme il le fera d'ailleurs de la démocratie en Grèce, hein, entre parenthèses, mais enfin ça nous entraînerait là aussi sur d'autres chapitres. Il est vrai que les deux hommes se connaissent, l'un et l'autre sont de très grands chasseurs, vous savez, et notamment à l'époque, il y a les chasses présidentielles à Chambord, et l'héritier d'Espagne avait pris part à une partie de chasse. Le prince Juan Carlos avait déjà été reçu en 70 et en 73 par Pompidou à l'Élysée. Et voilà ce que dit le président Giscard d'Estaing dans son discours. Il dit « L'Espagne fait partie de l'Europe ». C'est très important de le souligner à une époque coup et la neutralité espagnole pendant la guerre et l'extrême fermeture du pays sous l'époque franquiste avaient évidemment permis de douter de la question. L'Espagne fait partie de l'Europe, dit Giscard, par son histoire et sa civilisation. C'est une fondatrice de l'Europe. Nous souhaitons qu'elle participe à la grande action de notre époque qui est l'union politique de l'Europe. Je pense au peuple espagnol, je voudrais lui dire l'amitié, la considération que lui porte le peuple français. Bon, ça c'est ce qu'on voit dans tous les discours, quasiment sans exception. Je pense au jeune souverain, ça c'est moins évident, qui a la responsabilité, la volonté de conduire une nouvelle époque de l'histoire espagnole. Vous savez que il y aura ensuite une visite tout à fait officielle du président Giscard d'Estaing en juin 78 en Espagne. Et là encore, il sera le premier chef d'État européen à faire cette visite juste avant le fameux, enfin peu de temps avant le fameux coup d'État manqué des Cortés, vous savez, au cours duquel le roi d'Espagne tiendra ferme et sauvera la démocratie espagnole. Ça nous indique, là encore, la dimension politique de ces voyages. Et alors, puisque je vous parle de voyages politiques, le quatrième que j'aimerais évoquer, alors là encore, je m'en souviens très bien, parce que là, j'étais en âge de suivre tout ça de très près, je me rappelle que ça avait fait un peu de bruit, cette histoire, c'est la visite à Moscou du président Mitterrand en juin 1984. Un Airbus se pose dans la soirée à l'aéroport de Vnukovo, donc à Moscou. À l'intérieur, donc, le président Mitterrand, qui est venu pour un sommet franco-soviétique, c'est comme ça qu'on appelait ces visites officielles. Vous savez qu'il y a toute la terminologie soviétique qui venait se mêler aux affaires habituelles de la diplomatie. À la descente de l'appareil, il est reçu par Konstantin Tchernenko, qui est le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Il est là seulement depuis le mois de février. Pas oublier qu'on est en 84, c'est l'époque, c'est juste avant l'arrivée de Gorbatchev, hein, c'est l'époque où il y a tous ces espèces de vieillards qui se succèdent. On ne sait plus quel âge ils ont et ils sont tous dans un état assez terrible. Ça fait la risée du monde entier, mais en même temps, c'est une puissance terrifiante à l'époque, l'Union soviétique, ne l'oublions pas. Les relations, c'est le moins qu'on puisse dire, sont tendues entre la France et l'URSS à cette époque. Et le 21 juin, comme prévu, a lieu au Kremlin la rencontre entre Tchernenko et Mitterrand. Tout le monde est frappé par l'état de Tchernenko, hein, qu'on porte littéralement jusqu'à son fauteuil. Alors il y a beaucoup de sujets à aborder. L'Afghanistan, toujours à l'époque, bien entendu, une guerre qui dure depuis 5 ans. Et puis, alors il y a beaucoup d'autres sujets, je passe sur beaucoup, mais il y a cette affaire sur laquelle ont cristallisé les médias français, parce que je vous ai parlé de la délégation, mais il faudrait parler bien entendu de la délégation de presse qui accompagne également le chef de l'État, et c'est la question du dissident Andrei Sakharov. Est-ce que, oui ou non, Mitterrand va parler de Sakharov ? Ben, pour l'instant, on n'en sait rien. On va bientôt le savoir.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et quand vous le souhaitez, chers auditeurs, vous pouvez réagir, nous envoyer vos messages, vos questions. Il y a la page Facebook de l'émission par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire continue dans un instant et avec vous Franck Ferrand, nous resterons dans le sillage des présidents de la 5e République pendant leurs différents voyages.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
À bord de l'avion présidentiel, vous nous racontez, Franck Ferrand, les voyages des chefs de l'État de la 5e République et celui de François Mitterrand à Moscou.
Alors voilà, François Mitterrand est à Moscou en cette soirée de l'été, hein, le 21 juin 1984. Et dans l'après-midi, je me rappelle qu'évidemment sur Europe 1, on en avait fait une brève. La tension monte parce que des bruits ont couru que le président Mitterrand allait parler au cours du dîner officiel pendant son toast, vous savez, il allait parler du cas Sakharov. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui d'ailleurs devait s'appeler, je crois, ministre des Relations extérieures, c'était Claude Chesson, qui recommande la prudence. C'était un homme très prudent, Claude Chesson. Et François Mitterrand écoute les arguments des uns et des autres. Vous savez, on l'appelait le sphinx, il ne répond pas. On ne sait pas ce qu'il pense exactement. Il sait néanmoins qu'aborder ce sujet ne va pas évidemment plaire. Il s'en amuse. « Si je prends le risque de parler de Sakharov, dit-il, ma visite risque de tourner court avec retour à Paris dès demain matin. » Et le porte-parole du Kremlin, Kezamiatin, le chef du département de l'information internationale du comité central, voilà son titre exact, vous voyez un peu le genre, Zamiatin lance une véritable mise en garde en disant « L'affaire Sakharov ne concerne que les soviétiques ». Alors, est-ce que Mitterrand va finalement parler de Sakharov? Alors voilà, le début du dîner d'État. Vous savez ce que c'est que la grande salle Saint-Georges du Kremlin? Sans doute la salle officielle la plus impressionnante du monde, avec ses fresques bibliques extraordinaires, les portraits d'Ivan le Terrible. Enfin, c'est tout à fait fascinant. Hein. On est dans les ors et dans les stucs les plus incroyables. On porte donc des toasts. Tchernienko prend la parole. Il dit ceux qui essaient de nous donner des conseils en matière de droits de l'homme ne font que provoquer chez nous un sourire ironique. Il n'a même pas très bien prononcé tout ça, mais peu importe. Voilà ce que va dire le président Mitterrand de son côté. C'est Gérard Carrérou qu'on vient d'entendre à l'instant. C'est lui qui tenait le micro d'Europe 1 à l'époque.
Toute entrave à la liberté semble pourrait remettre en cause tous les principes librement acceptés. C'est pourquoi nous vous parlons parfois des cas ou des personnes, soit qu'elles soient symboliques, c'est comme cela qu'il faut comprendre l'émotion qui existe en Europe et dans beaucoup d'autres endroits, sur des cas qui touchent à des citoyens de votre pays, comme il peut en exister ailleurs, comme il en existe ailleurs. C'est le cas du professeur Sakharov, ou bien des inconnus qui, dans tous les pays du monde, peuvent se réclamer des accords d'Helsinki. Nous respectons votre souveraineté. Nous ne voulons pas nous ingérer dans vos affaires intérieures. Et je dis tout cela d'un mot parce que nous vous respectons.
Alors ça c'est dit fort, nous vous respectons, le nom de Sakharov a été prononcé meso voce, mais il a été prononcé, et c'est exactement comme si le président français avait renversé son verre de vin sur la nappe, ça fait même un effet bien plus fort. Il y a une espèce de sursaut dans l'Assemblée au moment où a été prononcé le nom du professeur Sakharov, c'était vraiment le tabou, hein, tout simplement, on peut parler d'un tabou. Et ça a jeté un froid terrible, ce qui fait qu'à la fin du toast, habituellement il y a des applaudissements et même des applaudissements nourris, hein, tout ça obéit à une habitude, tout ça est très bien rodé. Et bien là, d'un seul coup, c'est le silence. Un silence de plusieurs secondes sous les voûtes de cette salle Saint-Georges. Ça devait être quand même très impressionnant. C'est Gaïdar Aliyev, qui était le numéro 3 du parti, responsable des transports, ce qui est essentiel en Union soviétique, qui se penche vers son homologue français Charles Fitterman, par ailleurs communiste et membre du gouvernement, et qui lui dit « Finalement, il aurait mieux valu que Giscard d'Estaing soit réélu ». Ça vous donne une idée de la réaction du Kremlin. Mais l'ambiance va finir par se détendre, Mitterrand finira tranquillement sa visite officielle, et il rentrera, enfin son sommet franco-soviétique, et il va inviter Tchernienko à venir à Paris en partant. Alors, ce genre d'esclandre, il y en a, bien entendu, c'est ce qui amuse les journalistes, et paradoxalement, c'est ce que retient sinon tout à fait toujours l'histoire, en tout cas la petite histoire qui nous est si chère ici. Et j'aurais aimé vous parler de bien d'autres voyages, je suis obligé de tourner un peu court, et puis on va venir à la partie magazine de cette émission. J'aimerais poser quelques questions, j'en ai même toute une réserve à Jean-Marie Cambacérès et à Marc Tronchot, qui a suivi tout ça de très près pour Europe 1. Et... un esclandre peut-être que j'aimerais citer, c'est celui d'octobre 96. Est-ce que vous vous rappelez ce voyage de Jacques Chirac? Il fait toute une tournée au Proche-Orient et puis il passe en Israël, bien entendu. Le 21 octobre, il se rend à l'université de Haïfa, où il appelle à la création d'un État palestinien, s'il vous plaît. Et le 22, il faut vous dire que le contexte international est très très différent de ce qu'il est devenu. Et le 22, il fait une visite à pied dans Jérusalem. Tout ça était prévu, donc la vieille ville, la partie arabe, et puis on descend vers le mur des Lamentations. Chirac sert des mains, les services de sécurité israéliens sont sur les dents et ils essaient autant que possible et avec l'habitude qui est la leur de tenir la population à l'écart. Et là, on est sur la Via Dolorosa où Jésus est censé avoir fait son chemin de croix. Je dis est censé parce que dans une récente émission de télévision, j'ai démontré que c'était probablement pas le cas, mais peu importe. Toujours est-il que sur cette Via Dolorosa, Jacques Chirac va laisser éclater sa colère et il dit « Je commence à en avoir assez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je reprenne l'avion, que je rentre en France ?» Alors ça, C'est le genre d'esclandre qui n'est bien sûr pas du tout prévu au programme, qui rend malade les responsables de la diplomatie et plus encore ceux du protocole. On va y venir dans un instant parce que ils sont au moins aussi mobilisés que les diplomates dans ce genre de circonstances. Et évidemment, on ne peut pas parler pour autant d'un échec du voyage officiel, mais lorsqu'il y a eu un esclandre comme ça, vous pouvez compter sur la presse internationale et en l'occurrence notamment israélienne qui n'est pas tendre pour ne retenir que cela. Donc c'est très important. Encore une fois, les présidents, lorsqu'ils voyagent, essaient d'incarner quelque chose. Ils jouent avec les symboles et le moindre petit écart, le moindre mot de travers, sur un plan symbolique, peut prendre des proportions considérables.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Les Saveurs du Palais de Christian Vincent, sorti en 2012. Une musique signée Gabriel Yared. Au cœur des voyages présidentiels, pour en parler, Franck Ferrand, vous recevez le journaliste, écrivain, réalisateur et ancien directeur de la rédaction d'Europe 1, Marc Tronchot, auteur du livre Les Présidents face à Dieu, paru aux éditions Kelman-Lévy, et l'ancien député Jean-Marie Cambacérès, auteur du livre Dans les coulisses des voyages présidentiels, paru aux éditions du Cherche Midi.
Bonjour messieurs. Alors bonjour. Nous allons revenir avec Jean-Marie Cambacérès sur ses voyages dans un instant, mais il faut, Marc Tronchot, que vous me disiez tout de suite ce qui vous a mis sur la piste de ce sujet passionnant. A priori, votre livre s'appelle Les présidents face à Dieu. Vous avez également fait un film de télé sur le
52 minutes,
c'est ça. Mais a priori, on se dit oui, est-ce qu'il y a là une grande matière? Et on se rend compte que c'est en fait tout à fait passionnant. Les présidents entretiennent avec la religion en général et avec Dieu en particulier des rapports assez spéciaux.
Mais vous l'avez dit, j'en ai suivi quelques-uns, et en voyage officiel, effectivement. Et je me suis parfois posé la question de leurs convictions politiques et de la mesure de ces convictions politiques. À certains moments, j'ai été aussi amené à me poser la question de leurs convictions religieuses, simplement parce que, pour ne vous donner qu'un exemple, quand vous avez gravi la roche de Solutré avec François Mitterrand et que vous apprenez au détour d'un chemin que le lendemain, il va aller voir le frère Roger, patron, entre guillemets, de la communauté de Thésée, qui vont passer quelques moments ensemble et qu'il fait ça depuis des années chaque lundi de Pentecôte, vous posez la question. Vous posez la question de savoir pourquoi Mitterrand et Léotard, qui est un ancien séminariste, qui a même failli épouser une vocation religieuse, pourquoi Mitterrand et Léotard s'entendent aussi bien et parlent de choses profondes ensemble quand ils en ont l'occasion. Il y a des tas de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, les présidents ont quelque chose d'intéressant, mais ils ont aussi des choses cachées. Et pour faire une passerelle avec le livre de Jean-Marie Cambacérès, c'est vrai, les voyages officiels et la religion, c'est aussi un sujet, puisque le général de Gaulle, en voyage officiel, communiait alors qu'il ne le faisait pas lors d'événements publics en France. Il communiait simplement pour affirmer une certaine solidarité à l'égard de communautés chrétiennes qui étaient minoritaires ou qui étaient parfois étaient sous le joug.
Malheureusement,
il l'a fait en Pologne, il l'a fait en Russie, il l'a fait en URSS à l'époque, il l'a fait en Turquie également. C'était un signe, c'était un message. Alors que quand, en 62, il est avec Konrad Adenauer à Reims pour célébrer la réconciliation franco-allemande, il ne communie pas.
Oui,
alors que Konrad Adenauer le fait, la Bible en main, parce que la Bible ne le quittait jamais.
Ça ne changera rien, mais il est toujours bon de rappeler notre solidarité avec tous ces chrétiens qui souffrent dans le monde entier, qui en ce moment souffrent très, très violemment. Vous avez assisté à un certain nombre de voyages officiels, comme ça, des voyages d'État ou des visites
Par exemple, Mitterrand en Tchécoslovaquie, à l'époque, c'était la Tchécoslovaquie, Chirac en Afrique du Sud.
En Tchécoslovaquie, c'était avec le président Václav Havel.
Oui, absolument. Et on avait inauguré une maison de la France à Prague. Je suis allé à l'intronisation de l'empereur Akihito avec Michel Rocard. J'ai accompagné Chirac dans pas mal d'endroits. Les voyages officiels sont aussi cette occasion formidable de faire, comme on dit dans le langage journalistique, du off. Parce qu'on peut avoir ces hommes politiques sous la main dans des espaces relativement clos. Ça peut être l'avion, ça peut être le bar de l'hôtel, ça peut être et j'ai souvenir moi de par exemple d'un dîner avec Jacques Chirac. On était en Afrique, je crois. On avait demandé à Claude Chirac si on pouvait voir le président. On a vu le président à la condition de ne pas parler de politique. Et là, on a eu ce bonhomme qui nous a parlé des Taïnos toute la soirée et qui nous a parlé des civilisations amérindiennes, qui nous a parlé... Et je peux vous assurer qu'en tant que journaliste,
Mais c'est très important.
À l'issue de ce voyage-là, voilà. J'en savais plus, et mais voilà. Beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on a toujours défendu l'idée dans les rédactions qu'il fallait surtout ne pas lâcher cette affaire des voyages officiels. Il fallait être présent parce que là, on sent quelqu'un. On sent une politique aussi parfois en essence, en maturation. On sent les ressorts. On sent mieux les ressorts d'un homme parce Bien que sûr. Ce sont des hommes.
Et là, ça change le regard que vous portiez sur lui. Et donc, forcément, ça va changer à terme les commentaires que vous pourrez être amené à faire. Hein,
mais
donc c'est
ça
très
peut
intéressant.
Les influencer de manière positive, oui.
Et ce qui est vrai pour les journalistes qui font partie évidemment du petit monde, hein, qui sont là dans l'intimité du chef de l'État, est également vrai pour les foules et pour les peuples. C'est là que c'est cette importance des symboles. Lorsque l'on a ici en France des visites officielles de certains chefs d'État qui arrivent de toute la planète, a priori on voit surtout le côté officiel un petit peu barbant, si je puis dire. En vérité, il y a derrière une présence, il y a quelque chose de charnel, quelque chose qui s'incarne tout simplement, ce qu'on si bien comprend. Pris depuis tant de siècles les monarchies, et on ne peut pas penser au voyage officiel sans penser évidemment à celle qui en est la reine, si je puis dire sans mauvais jeu de mots, c'est la reine Elisabeth évidemment qui est une sorte de porte-étendard extraordinaire.
Et le pape.
Et le pape d'ailleurs, et le pape, c'est vrai, oui, ce sont les deux stars si l'on peut dire. Alors Jean-Marie Cambacérès, je parlais tout à l'heure de la visite en Chine du président Pompidou, vous avez eu l'occasion d'assister à deux visites présidentielles en Chine, vous. Alors c'était bien après Pompidou, bien entendu.
Oui, bien après Pompidou, c'était avec François Mitterrand, j'en ai même fait deux avec lui. Une, c'était un mois avant qu'il soit élu, et une autre avec lui en tant que président, et puis avec François Hollande plus récemment. Mais ce qui était intéressant dans celle de Pompidou, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est que en fait c'est le général de Gaulle qui aurait dû aller le premier en Chine. C'est lui qui avait reconnu la Chine en 1964. Ça n'a pas pu se faire pas dans son mandat. Ça aurait dû se faire tout de suite après. Et puis il est décédé relativement rapidement. Et donc c'est Pompidou qui a été le premier. C'était très important, mais Mao était vraiment affaibli, lui aussi. Et donc, c'était symbolique de le faire, mais vraiment, ils ont été courageux de le faire. Le président Pompidou a été très courageux dans cette visite. Étienne Manac, qui était l'ambassadeur, l'a beaucoup raconté. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup souffert, mais il l'a fait pour la France, quoi.
Vous avez accompagné le président Mitterrand, qui avait un sens très particulier du protocole et du décorum, si je puis dire. Il avait un grand charisme.
Ah ben, c'est-à-dire que le protocole, oui, des présidents, jusqu'à la fin du président Chirac, ou Nicolas Sarkozy, c'était tous les présidents. Donc François Mitterrand,
c'est
coulé dans le moule, mais le protocole qu'avait établi le général de Gaulle était vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, on était tous en ligne avant de monter dans l'avion, il nous saluait un par un, il montait le premier, et quand il revenait, le gouvernement l'attendait au rang complet à l'aéroport, quelle que soit l'heure, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant.
Non, bien sûr, oui. Je dis bien sûr, mais ce n'est pas une telle évidence, en tout cas.
Tout ça a été
beaucoup allégé, bien entendu.
Oui, ça a été beaucoup allégé, je vous dis, au cours des 3 ou 4 derniers septennats.
Il y a eu un voyage de François Mitterrand qui a été un véritable désastre. C'était sur un territoire français, vous me direz, mais
oui,
c'était en Guyane.
Hein. Français. Oui, c'était d'ailleurs, lui-même, le président Mitterrand, l'a qualifié de voyage de la poisse. C'est long si je vous le raconte.
Ah ben allez-y, on va peut-être pas tout le voyage.
Non, peut-être pas tout, mais déjà dès le départ, au moment où le Concorde allait débarrer, en fait, le Concorde freinait et s'arrêtait. Et 2 ou 3 fois. Ils ont été obligés de changer de Concorde. Deuxième Concorde a démarré. On s'est aperçu après que c'était les messages secrets qui disaient les portes sont fermées, en fait, à l'Élysée, qui brouillaient, en fait, les freins du premier Concorde. On ne sait pas pourquoi. Donc déjà, François Mitterrand n'était pas très content. Plus d'une heure de retard. Ensuite, il part, le Concorde devait s'arrêter à Dakar. Ils allaient en Guyane, là, pour un tir de la fusée Ariane. Et en arrivant à Dakar, le chef du protocole devant, enfin, François Mitterrand est accueilli par 2 superbes hôtesses. Et le chef du protocole, subjugué par les fesses des filles, les suivait, fait pas attention que le président est derrière, et lui renvoie la porte vitrée en plein sur le nez. Donc François Mitterrand se retourne vers Charras et lui dit, quand même, il aurait pu faire attention. Et Charras lui dit, oui, il était subjugué par les... Enfin, je suppose qu'il n'a pas dit les fesses des filles. Et donc, ça avait fait rire le président, mais enfin, il aurait pu saigner du nez.
Oui, ça tombe mal quand on arrive.
Ça fait mal quand on reçoit une porte en l'air. Ensuite, ils partent, ils vont à Kourou. Et là, bien sûr, je dis bien sûr, mais ça arrive pas souvent, mais enfin, la fusée, le tir de la fusée a échoué. Bon, François Mitterrand dit, on va renforcer les techniciens, les ingénieurs, parce qu'ils doivent être tristes. Et il dit au préfet, est-ce que vous savez où le bunker où il sort? Le préfet lui dit, bien sûr, monsieur le président.
Oh là là.
Allons-y. Donc la délégation part avec beaucoup de lumière et tout. Après, un peu moins de lumière, puis une petite route, puis un chemin dans la jungle. Et le président se retourne vers le préfet, lui dit « Vous savez où est le bunker ?» Finalement, non, monsieur le président. Oh là là, alors il retourne, Mitterrand était déjà un peu furieux. Il retourne dans le bunker là, avec une autre personne. Là, il y avait des gaz encore, il a fallu qu'il attende une heure. Bon, il renforce tous les ingénieurs, il pleure et tout, etc. Puis après, ils prennent deux hélicoptères pour retourner... Dans le chef-lieu du département. Le préfet avait dit, comme on a déjà perdu beaucoup de temps, on va mettre deux hélicoptères au lieu des voitures. Le président met les écouteurs, Charras est à côté, puis un autre hélicoptère pour le reste de la délégation. Et à un moment donné, Charras voit le président enlever les écouteurs et lui dire, vous savez ce qui vient d'arriver ? Non, monsieur le président. Ben, l'hélicoptère à côté vient de se scratcher. C'est pas vrai, c'est le voyage de la poisse. C'est Mitterrand lui-même qui le dit. Alors, heureusement, il n'était pas très haut, l'hélicoptère. Il avait fait un mètre ou deux. Donc il s'est cassé, et donc le président est retourné dans la capitale et a renvoyé l'hélicoptère pour le chercher. Avec tout ça, on a perdu beaucoup de temps.
Alors ça, c'était un voyage sur un territoire français, donc on n'est pas tout à fait, on est aux marges, on va dire, du voyage
oui,
officiel.
Oui, bien
alors,
sûr, bien sûr.
Quelles sont les strates, si je puis dire? Quels sont les différents niveaux de voyage en termes de solennité possible?
Théoriquement, il y en a quatre. Bon, dans le protocole, il y a les voyages privés, les voyages...
Alors ça, le voyage privé, normalement, ça ne concerne pas l'État. Hein, c'est
non, mais
en théorie,
bon,
mais enfin bon, par définition, même, si c'est même, un chef d'État...
Oui, quand même, on s'en occupe, tu vois.
Voilà.
Bon, oui, voilà, on s'en occupe quand même. Mais bon, c'est le plus bas niveau, entre guillemets, de mobilisation des services de l'État.
Un pays comme la France reçoit énormément de visites privées de chefs d'État.
Bien
il faut
sûr,
le savoir.
Bien
mais enfin bon, ça c'est.
Non, mais bien
bon.
Sûr. Et c'est justement pour ça qu'il faut quand même s'en occuper.
Bien sûr.
Et tout.
Bon. Il vient de se faire soigner aussi.
Oui, voilà, par exemple.
Oui, se faire soigner en vacances ou parce qu'il aime bien la France. Bon. Ensuite, il y a les voyages de travail.
Mm-hmm.
Bon. Ensuite, il y a les voyages officiels et puis les voyages d'État. Alors, c'est vrai qu'entre les voyages officiels et les voyages d'État, sauf le niveau du décorum, mais c'est presque pareil. Donc, il faut pas trop. Jouer sur les mots, quoi, hein, surtout.
Oui,
surtout
quand on dit visite d'État, en gros, il y a des drapeaux partout.
Voilà, des drapeaux partout.
Des grandes soirées, un grand dîner, généralement.
Oui, il y a le grand dîner d'État, des drapeaux partout. Mm-hmm. Un nombre très important de la garde républicaine dans la cour du palais, à l'Élysée. Ceci dit, même quand c'est un voyage officiel, il y en a. Simplement, c'est le nombre qui change. Et puis, il y a aussi une arrivée en hélicoptère au-dessus de la Tour Eiffel et jusqu'aux Invalides. Et ensuite, il y a la garde républicaine à cheval qui mène jusqu'à l'Élysée. Voilà le voyage d'État.
Alors,
les préparations sont presque les mêmes. Et puis, je m'excuse, ensuite, il y a une série de voyages, alors là, où le président décide de partir, comme la dernière fois, vous avez vu avec Angela Merkel, pour aller voir Poutine. Là, honnêtement, les services sont même pas à la limite au courant. Moi, je me rappelle, j'étais avec lui au Kazakhstan là, le 6 décembre, quand il a décidé de rentrer par Moscou pour voir Poutine 2 heures dans l'aéroport. Donc ça, ce sont des voyages qu'ils font en plus. Vous voyez, et comme François Mitterrand un jour est allé rencontrer d'une manière tout à fait secrète le colonel Kadhafi en Crète, la personne l'avait préparé, c'était secret. Bon, il y a un certain nombre de voyages comme ça.
Trois questions, parce qu'il y en aurait tellement.
Oui,
mais la place de la première dame, déjà, ça c'est intéressant. Moi, j'avais écrit les mémoires d'un aide de camp du général de Gaulle, le colonel Tesser, aide de camp R dans les années 59, 60, 61, qui disait que lorsque le général de Gaulle se déplaçait, il payait le billet d'avion de madame de Gaulle si ça n'était pas une visite d'État. C'est-à-dire si elle n'était pas inscrite sur le rôle du protocole. Ça paraît quand même extraordinaire.
Mais vous savez, le général de Gaulle avait un certain nombre de principes comme ça. Qui bon ont disparu au fur et à mesure de l'histoire. Je crois que c'est le président Giscard d'Estaing qui est le premier à installer non pas un statut officiel, puisqu'il n'y a pas de statut officiel de première dame, mais où il a donné un secrétariat, des bureaux, des collaborateurs.
Et c'est vrai que Madame Giscard d'Estaing jouait un très grand rôle dans ses voyages, notamment ses tenues hein, étaient
Bien
photographiées
sûr.
Par la presse
c'était,
en entière.
C'était un peu limite par rapport à la République, parce que le président Giscard d'Estaing l'a chargé d'être son représentant de temps en temps, elle a signé, je crois me rappeler, un document officiel à Andorre au nom du président de la République, ce qui est quand même limite. Bon, ceci dit, c'est François Mitterrand, contrairement à ce qu'on croit, qui a vraiment modifié un peu les codes, non pas des premières dames, mais des invités, parce que Charles de Gaulle, invité...
Alors ça, c'est la deuxième question, c'est la délégation. Hein.
Alors, les premières dames, je continue quand même pour la première, si vous voulez, c'est quand même Carla Bruni, qui a vraiment, disons, crevé l'écran, si on peut dire, qui a même été favorable à l'image de son époux, parce qu'elle était aussi connue que lui, même plus dans le monde, et donc avec il y a Michelle Obama aussi,
voilà.
Et il y en a une dont on parle peu, mais qui va jouer un rôle très très important, c'est Peng Liyuan, qui est l'épouse de Xi Jinping, parce qu'elle aussi est une chanteuse qui était plus connue que son mari. Elle a fait beaucoup de tournées dans le monde d'ailleurs, et puis en Chine beaucoup. Et elle met un brin de
poésie. Elle humanise un peu ces délégations chinoises qui sont quand même un peu terribles.
Elle l'a pris par le bras en descendant de l'avion, ce qui s'était jamais fait. On n'imagine pas Mao Tse-tung ou Deng Xiaoping avec sa femme qui le prendrait par le bras. Évidemment. Donc on va en parler d'elle.
Je vais réunir, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, les deux questions suivantes, c'est celle de la délégation et celle du commerce en quelque sorte. Parce que, notamment avec le président Chirac, on a vu que ces voyages d'État sont devenus des espèces de voyages de commerce quand même.
Ça a commencé paradoxalement avec François Mitterrand. Peut-être que Marx en rappelle, c'est François Mitterrand qui a été le premier à prendre des hommes d'affaires avec lui. Donc, le général de Gaulle, ça aurait été suspect. Le président Giscard d'Estaing m'a dit lui-même, quand je l'ai interviewé pour ce livre, je faisais exactement comme le général de Gaulle. Donc j'invitais que des officiers, des généraux, des administrateurs, tu vois, des gens de l'administration.
Pas des gens privés.
C'est la première fois que François Mitterrand a pris des hommes d'affaires. Et petit à petit, effectivement, la signature des contrats, le montant, est devenu un enjeu un peu politique, un peu surfait. Parce qu'il faut... c'est un contrat qui est presque prêt, on attend que le président y aille pour le signer. S'il n'est pas prêt, on met un MOU à la place. Mais c'est quand même une indication. C'est quand même une indication. Et ça se fait de plus en plus. Ceci dit, une tendance en sens contraire maintenant, et qui est le bon exemple pour le Rafale, c'est qu'il ne faut pas chercher à considérer tous ces pays maintenant comme uniquement des pays où on va faire des marchés. Ils sont considérés comme des grandes puissances, la Chine, l'Inde. Et donc, il faut discuter d'abord politique, stratégie, et laisser les ministres et les hommes d'affaires s'occuper après des contrats. Ce n'est pas au président de négocier les contrats.
Du général de Gaulle à François Hollande, dans les coulisses des voyages présidentiels de Jean-Marie Cambacérès, c'est dans la collection Documents des éditions du Cherche Midi. On va y revenir dans un instant. Et j'ai envie à ce stade de poser la question du cher et regretté Jacques Chancel. Et Dieu dans tout ça.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les voyages des présidents de la République et leur rapport à Dieu sont au cœur de l'histoire. Vos invités, Franck Ferrand, l'ancien député Jean-Marie Cambacérès, auteur du livre « Dans les coulisses des voyages présidentiels » chez Le Cherche Midi, et le journaliste, écrivain et réalisateur, ancien directeur de la rédaction d'Europe 1, Marc Tronchot, auteur du livre « Les présidents face à Dieu » chez Calmann Lévy.
Ils sont bavards, tous les deux, ils sont bavards.
On a des tas de choses à se dire.
Oui, c'est ça, j'ai l'impression, ça va se prolonger cette émission, probablement. Alors, la première fois que j'ai eu l'honneur de visiter l'Élysée, j'ai été surpris de voir qu'il y avait qu'il y avait eu une chapelle à l'Élysée, Marc Tronchot.
Il y en a eu une, effectivement. C'est Charles de Gaulle qui a souhaité, quand il est arrivé à l'Élysée, qu'une petite salle soit aménagée de manière à ce qu'il puisse y assister à la messe le dimanche, quand il n'était pas au Colombier des deux églises. Il n'y était pas, c'était pas tous les week-ends, mais quand ça se produisait, je veux dire que les agents de sécurité étaient très contents, parce que l'église où il aurait fallu que se rende le général, c'était la Madeleine, et c'était, pour des raisons de sécurité, beaucoup plus difficile de protéger la Madeleine qu'une salle à l'intérieur de l'Élysée. Donc il y a cette petite salle qui est, quand on rentre à l'Élysée, à gauche, et il y a un petit escalier qui descend, et là vous avez une petite salle où effectivement a été aménagée grâce à l'aide de camp, grâce à Le Floïc, a été aménagée cette salle avec un petit hôtel, des chandeliers, quelques prie-dieux, et quand il y avait des invités, il y avait quelques fauteuils qui leur étaient réservés, et puis un crucifix. À la place du crucifix, aujourd'hui, vous avez la photo de François Hollande. Ça, c'est cocasse, mais parce qu'on sait que François Hollande n'a qu'un rapport très distancié avec la religion.
C'est l'exception qui confirme la règle, si je puis dire, parce que les autres ont quand même une... Nicolas Sarkozy et François Hollande ont un rapport un peu différent, quand même, par rapport...
Oui, c'est même pas une exception, s'agissant de François Hollande, parce qu'ils ont tous eu une éducation chrétienne. Oui. Je veux dire, même s'ils étaient nés dans un milieu très jaurétien, comme c'était le cas de Georges Pompidou, ils ont tous eu... Ils ont su ce qu'étaient les prières, ils ont su se tenir dans des églises, ils savaient ce qu'étaient les sacrements, ils savaient les rites de l'église. Et François Hollande, qui a été élevé chez les Lassalliens à Rouen, ne fait pas exception de ce point de vue-là. On pourrait trouver des photos de François Hollande en enfant de cœur, comme on pourrait en trouver des autres présidents. Donc la démarche qui fait que le président Hollande se distancie, comme je le disais, de la religion, elle intervient après. C'est un choix qu'il fait, j'allais dire, en son âme et conscience et en toute maturité.
Alors il y a un président qui est un catholique, observant, si je puis dire, c'est le président Giscard d'Estaing.
Observant, mais parce que chez Giscard, le côté scientifique l'emporte sur le côté croyant. Lui comme les autres, il connaît les évangiles, il connaît l'Ancien, le Nouveau Testament, il sait tout ça. Ça l'intéresse un petit peu moins. Je veux dire, avec Giscard, on a toujours cette impression qu'il cherche à avoir la preuve de l'existence de Dieu. D'ailleurs, il va s'en ouvrir, je le raconte dans le livre, il va s'en ouvrir un jour à un académicien.
Paroissien, oui, qui est en l'occurrence Monseigneur d'Agen, l'évêque d'Angoulême, qui a pris la place de Monseigneur Lustiger et de ceux qui avaient précédé. Et un jour, Monseigneur d'Agen se retrouve face à Giscard, qui lui dit, mais en fait, est-ce que la bonne question qu'on devrait se poser, Monseigneur, ce n'est pas celle des preuves de l'existence de Dieu en ce bas monde? Et c'est vrai que Monseigneur d'Agen, alors que c'est une question que d'autres ont résolue depuis longtemps, qui s'appelle Pascal ou Leibniz, je veux dire, le pauvre Monseigneur s'est trouvé un tout petit peu pris de court devant cette question très scientifique et pourtant d'un croyant.
On ouvre votre ouvrage en croyant égrener des anecdotes et en fait on est en présence d'un ouvrage en partie spirituel, il faut bien le dire. Et ce qui m'a passionné, les deux cas peut-être les plus intéressants, c'est celui de Georges Pompidou et puis celui de François Mitterrand. Alors Georges Pompidou, une approche spirituelle assez particulière.
C'est en dents de scie avec Mitterrand parce que comme je vous le disais, il naît chez Jaurès. Et
avec Pompidou.
Il meurt avec les chants grégoriens. Pompidou, pardon. Pompidou va être au courant de ce qu'est la religion. Il va la toucher du doigt, si j'ose dire. Il va épouser une femme qui, elle, a été élevée chez les Ursulines. Et puis ensuite, il va y avoir une période pendant laquelle il ne va pas véritablement pratiquer. Et puis ça va revenir avec la famille, avec la propriété à Orvilliers. Ça va revenir par la suite peut-être un petit peu avec les enfants, les petits-enfants. Mais il y a jamais véritablement, si vous voulez, ce côté croyant. Il a un avis sur l'Église, il la trouve soit trop moderne, soit pas assez. Il aime le latin s'agissant des offices, mais il trouve que le rituel est un petit peu passé de mode. Il serait assez volontiers pour que les religieux et les officiants changent un tout petit peu leur costume. Bon, il y a des tas de choses chez lui.
Faut dire qu'on est à une époque, il est président à une époque où l'Église est travaillée par une réforme sans précédent.
C'est presque un paradoxe, mais c'est l'homme de Beaubourg, dont certains considèrent que c'est sa cathédrale. Les adversaires diront que c'est une cathédrale de tuyaux, mais il est l'homme de Beaubourg et dans le même temps, c'est un homme qui est extrêmement peu ouvert sur les questions de société. Il est mal à l'aise et son fils adoptif, Alain Pompidou, que j'ai longuement rencontré, l'explique très bien. Je veux dire, chez eux, on ne parlait pas de certaines choses. On ne parlait pas de sexe, on ne parlait pas d'avortement. Et quand on l'oblige d'une certaine manière, quand la société qui est en devenir, qui attend ce genre de réforme, l'interroge sur ces questions-là, il a peine à le faire. Donc c'est quelqu'un d'un petit peu écorché vif. C'est quelqu'un qui va avoir un rapport à la religion qui va en fait être une véritable révélation que André Malraux va lui permettre de faire. Alors qu'André Malraux est un agnostique, et ça ne fait qu'ajouter justement à ce paradoxe
extraordinaire
de Pompidou, qui effectivement par la suite se fera enterrer à Orvilliers. Et il y a des chants grégoriens, il y a une messe en latin, il y a une croix sur la tombe. Et j'ai posé la question à Alain Pompidou par acquis de conscience. Je lui ai dit, mais la croix, c'est lui, c'était pas dans le testament. Il me dit, c'est drôle que vous me posiez la question, personne ne me l'a jamais posée, c'est moi qui ai pris l'initiative de le faire. Voilà. Donc vous voyez, je veux dire, les chants grégoriens, oui, la croix, non, la messe en latin, pourquoi pas, et les réformes de société, j'ai du mal. Ça, c'était
Quelle
Pompidou.
Quelle magnifique complexité. Hein,
voilà.
Mitterrand disait, je crois aux forces de l'esprit, lui. Il y a une spiritualité. Mais d'ailleurs, on a l'impression
que
chacun...
Il disait d'abord, je ne sais pas si je crois.
Oui.
Parce que Mitterrand est d'abord un chercheur. Et il va chercher, comme m'a dit Jean Glavany, il va chercher très très loin. Parce que, pour tout vous dire, je ne m'attendais pas en commençant ce livre, et en commençant ce chapitre sur Mitterrand, à le terminer dans les bras de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et c'est pourtant ce qui va arriver. Puisque à quelques mois de sa mort, il va demander un service à Jean Guiton, qui est un philosophe et qui est un grand croyant et qui est un ami de Mitterrand, que Mitterrand consulte depuis très longtemps, avec qui il a des discussions philosophiques et notamment sur la mort. Il va demander à Jean Guiton de faire dévier quelques heures le véhicule qui ramène de Lyon vers Lisieux. Le grand reliquaire de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et un beau jour de décembre, un petit matin glauque, il y a un véhicule qui va s'arrêter devant l'avenue Frédéric Leplay au numéro du bâtiment où habite François Mitterrand. Et François Mitterrand va descendre, on va lui ouvrir le véhicule pour qu'il puisse toucher le reliquaire de Sainte-Thérèse de Lisieux.
Mais
simplement parce que c'est la sainte du passage. C'est celle qui disait « Quand je serai morte, je ferai le bien après ma mort, je ferai le bien sur terre. » Ce qui voulait dire d'une certaine manière qu'elle allait continuer et que tout allait continuer. Et ça rassurait énormément Mitterrand parce que tous ces hommes politiques ont une seule angoisse, c'est celle qu'il n'y ait rien après.
Eh oui. qui ne puissent pas continuer à exercer
leur
pouvoir.
Vie n'ait été d'une certaine manière l'échelon de l'histoire qu'un immense gâchis, si vous voulez.
Terrible, terrible, évidemment, on peut comprendre, c'est une perte
c'est
de sens.
Très prétentieux à la fois, mais oui. C'est très humain aussi.
Oui. Alors justement, quel est leur rapport aux autres religions? Parce que là, on ne parle toujours que de religion catholique. Quels ont été les rapports? Je pense à un président très humaniste, comme le président Chirac, qui est très ouvert, etc. Quel est son rapport à l'islam, son rapport à la religion juive?
Je crois qu'il faut regarder les choses de manière plus globale. La différence entre les trois premiers présidents de la Ve République, peut-être même les quatre, et les trois suivants, c'est que les premiers sont confrontés à des débats de société franco-français qui vont les amener parfois à prendre
en fait,
des
avortements, oui.
Enseignements privés, etc. Voilà, etc. Oui. Et les suivants vont être confrontés à la montée de l'islam.
Mm-hmm. Ils vont les questions de société existent toujours avec le mariage homosexuel.
Oui, oui, absolument, elles existent toujours. Mais ils vont être confrontés notamment à l'affaire du voile.
Oui,
l'affaire
sûr.
Du voile, elle dure depuis 1989. Le proviseur qui interdit aux fillettes de porter le voile et les expulse, c'est 89, on s'en rend pas compte. 89, vous vous rendez compte et il va falloir attendre 2004 pour que la commission Stasi propose une solution. Chirac va être confronté à ça. Chirac qui était un croyant traditionnel, un peu corrézien sur les bords, vous voyez ce que je veux dire. Chirac va d'une certaine manière se trouver face à une religion qui devient hostile. Et il va finir par s'en méfier dans un contexte international qui est celui de la montée d'un terrorisme fondamentaliste. Et ça, je veux dire, Sarkozy va également devoir le prendre en compte et François Hollande aujourd'hui doit le prendre en compte.
Le voyage spirituel et le voyage tout court, de manière assez originale d'aborder les sept présidents de la Ve République. Votre ouvrage, Marc Tronchot, Les présidents face à Dieu, et c'est publié chez Kalman Lévy. Merci beaucoup à vous deux d'avoir en quelque sorte changé un peu notre regard sur des hommes qu'on croyait connaître si bien.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Jean-Philippe aujourd'hui via la page Facebook de l'émission. Il vous demande, Franck Ferrand, quelle est l'origine de l'expression « tenir la dragée haute » ?
Alors tenir la dragée haute, c'est très intéressant hein, d'ailleurs parce que on est en présence d'une expression qui a deux origines possibles. Alors, dans les deux cas, on parle bien d'une friandise qui va récompenser. Hein. L'expression, elle existe telle quelle, tenir la dragée haute, depuis le XVIIe siècle. Entre parenthèses, au XVIIe siècle, les formes verbales n'étaient pas tout à fait fixées. C'est une faute de français, hein, tenir la dragée haute, parce qu'on devrait dire normalement tenir la dragée haut. Mais enfin bref, bon, peu importe, c'est ainsi. L'expression est entrée telle quelle dans la langue. Alors, dans un premier temps, c'est comme si on tenait, vous savez, un sucre sous le nez d'un petit chien, juste assez haut pour qu'il ne puisse pas l'atteindre. Et qu'il soit... C'est-à-dire que tenir la dragée haute, c'est donner du fil à retordre, si vous voulez. Hein. Cette idée d'imposer un lourd effort en échange d'une contrepartie convoitée. On peut penser que la dragée, là, fait référence aux amandes enrobées de sucre, la dragée classique. Mais ça pourrait être une toute autre dragée, alors là, qui n'a rien à voir. Ce qu'on appelle dragée, dans le monde de l'équitation, c'est une botte de fourrage vert qui est composée de froment et de sarrasin. On appelait ça d'ailleurs plutôt la dragie au départ, et puis c'est devenu peu à peu la dragée. Et c'est comme une sorte de friandise qu'on donne aux chevaux. Et pour que les chevaux n'en abusent pas, on a tendance, dans leur atelier, à placer la dragée très haut, afin que, sinon, ils se jetteraient dessus et ils l'avaleraient d'une bouchée, si je puis dire. Donc, vous voyez que dans les deux cas, il s'agit bien de donner du fil à retordre, hein, de se montrer exigeant, de ne pas tout donner tout de suite, mais je trouve que l'explication équestre, en quelque sorte, est plus juste, sans doute, et plus séduisante. Il s'agit d'une dragée de fourrage, en l'occurrence.